l'Iran célèbre la journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale. Toutes les options sont sur la table contre Israël, a martelé le secrétaire général du Hezbollah libanais. Et le Parlement algérien a accordé au président du pays le droit de déclarer la guerre à Israël. C'était les principaux titres. En voici le journal. Des millions d'Iraniens sont descendus dans les rues à travers le pays pour commémorer l'anniversaire de la prise de contrôle de l'ambassade américaine, le nid d'espionnage, baptisé « Journée nationale contre l'arrogance mondiale ». Des rassemblements de masse ont eu lieu ce samedi 4 novembre dans la capitale Téhéran à 9h, heure locale, et dans quelques 800 villes et villages à travers le pays. Chaque année, des manifestants se rassemblent devant l'ancien siège de l'ambassade américaine à Téhéran, scandant « Abat les États-Unis » et « Abat Israël », le plus proche allié de Washington, pour exprimer leur indignation envers les actions de l'arrogance mondiale. Sur les chemins empruntés par les manifestants, de nombreux stands ont été installés pour décrire les crimes commis par l'Occident contre la République islamique et d'autres pays du monde. Il y a 44 ans, le 13 Aban du calendrier iranien, soit le 4 novembre 1979, des étudiants iraniens ont pris le contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran, également connue en Iran comme le nid d'espionnage des États-Unis. Moins d'un an après que la révolution islamique ait renversé la dictature Pahlavi, soutenue par Washington. Ce jour a été baptisé « Journée nationale de lutte contre l'arrogance », qui coïncide avec la Journée nationale des élèves en Iran. Chaque année, des manifestants, notamment composés d'écoliers, commémorent la Journée nationale de lutte contre l'arrogance mondiale à travers le pays, appelant tous les musulmans et les nations en quête de liberté à résister contre l'arrogance mondiale et à ne pas céder à leur brimade. Ce jour est devenu le symbole de la résistance et de la lutte acharnée contre l'impérialisme occidental. À l'international, le 13 Aban marque la victoire de la nation iranienne sur l'hégémonie mondiale, un modèle pour tous les esprits de la liberté dans le monde entier. Le ministre iranien des Affaires étrangères a exhorté l'Angleterre à adopter une approche réaliste envers les développements dans la région de l'Asie de l'Ouest. La crise en Palestine est enracinée dans l'occupation par le régime israélien, a-t-il rappelé. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a effectué vendredi 3 novembre un entretien téléphonique avec son homologue britannique, James Cleverly. « Je conseille au gouvernement britannique d'adopter une approche réaliste envers les développements de la région. » Quelle que soit l'approche à adopter, il faut savoir que la crise palestinienne est enracinée dans l'occupation par le régime israélien. Du point de vue du droit international, le peuple du pays occupé jouit du droit à la légitime défense. M. Amir Abdollahian a appelé à la cessation immédiate de la guerre du régime sioniste contre la bande au Gaza et au transfert massif de fournitures humanitaires vers le territoire palestinien. Le ministre iranien a également déclaré que le soutien à tous azimuts des États-Unis au régime sioniste avait contribué à l'exacerbation des hostilités dans la région. Il a conclu son entretien en rappelant que les forces de la résistance dans la région ne reçoivent pas d'ordre de l'Iran, mais qu'elles prennent plutôt des décisions basées sur les circonstances et en fonction des priorités de sécurité nationale et régionale. James Cleverly a pour sa part demandé à la République islamique d'essayer d'empêcher l'expansion de la guerre, rappelant son influence régionale et les conventions diplomatiques signées entre les deux pays. Au cours d'un autre appel téléphonique avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, M. Amir Abdollahian a exprimé son inquiétude quant aux retombées de la guerre d'Israël contre la bande au Gaza sur la région. La Russie et l'Iran ont une position commune envers la situation en Palestine occupée. Moscou craint que l'expansion de la guerre ne rende la situation incontrôlable, a dit pour sa part le chef de la diplomatie russe. Et lors d'une conversation téléphonique vendredi avec son homologue syrien Faisal Mirdad, M. Amir Abdollahian a affirmé que les combattants palestiniens et tous les mouvements de résistance dans la région sont prêts à résister à l'ennemi israélien et à contrer toute initiative contre le peuple palestinien sans défense. M. Mirdad a pour sa part réaffirmé la position de principe et immuable de la Syrie sur un soutien ferme à la Palestine et au front de résistance malgré ses propres problèmes. Il a exhorté le monde musulman à renforcer son unité pour faire face au régime d'apartheid et a appelé les pays de la région à rester vigilants face au complot ourdi par les États-Unis et Israël. Vendredi, au 28e jour des attaques génocidaires d'Israël contre la bande de Gaza, le bilan a atteint au moins 9227 morts, dont 3826 enfants et 2405 femmes. Au moins 23516 personnes ont été blessées. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Sayed Hassan Nasrallah, a déclaré que l'opération Tempête al-Aqsa avait été entièrement menée par des mouvements de résistance palestiniens. La grande opération Tempête al-Aqsa a été décidée et réalisée à 100% par des Palestiniens, a déclaré Nasrallah dans un discours télévisé vendredi 3 novembre, une première depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza le 7 octobre. Nous n'avons pas été gênés par la dissimulation par le Hamas du plan d'attaque du 7 octobre. Les conditions en Palestine ces dernières années ont été extrêmement dures, en particulier avec ce régime extrémiste, insensé, stupide et sauvage, a-t-il dit. Nasrallah a présenté ses condoléances et félicitations aux familles des personnes tuées à Gaza et en Cisjordanie occupée. Il s'agit d'une bataille sans faille au niveau humain, ethnique et religieux. Notre véritable force réside dans notre ferme conviction inébranlable, notre dévouement et notre engagement envers la cause palestinienne, a déclaré le leader du Hezbollah. Nasrallah commençait son discours en faisant l'éloge des martyrs du Hezbollah et d'autres groupes de résistance combattant Israël ainsi que des civils tués. Nous devons également saluer le courage des puissantes forces irakiennes et yéménites qui sont désormais impliquées dans cette guerre sainte, a-t-il encore dit. Il fallait qu'il y ait un événement majeur qui ébranlerait l'entité usurpatrice et ses partisans à Washington et à Londres. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu l'opération bénie du 7 octobre. Dans un geste significatif, le Parlement algérien a officiellement autorisé le président, par un vote à la majorité, à entrer dans le conflit pour soutenir Gaza, si nécessaire. La décision intervient en réponse à l'escalade des massacres israéliens contre la population palestinienne dans la bande de Gaza assiégée. Le Parlement a apporté son soutien au président Abdelmadjid Tebboune, l'autorisant à intervenir dans le conflit en réponse à l'escalade des attaques israéliennes sur Gaza, si nécessaire. La séance de vote s'est déroulée alors que les députés scandaient des slogans de soutien au peuple palestinien et aux groupes de résistance. L'Algérie est le premier pays arabe dont le Parlement autorise et légitime officiellement les forces armées du pays à déclarer la guerre à l'entité sioniste pour soutenir la nation opprimée de Palestine. De nombreux experts estiment que si l'Algérie entre en guerre directe avec Israël, le détroit de Gibraltar deviendra dangereux pour les alliés du régime sioniste. Aux États-Unis, des manifestants pro-palestiniens ont bloqué le port d'Oakland, en Californie, pour empêcher le départ d'un navire militaire américain qui doit transporter des armes vers Israël. Au moins 200 manifestants opposés à l'aide militaire américaine à Israël, qui mène une guerre meurtrière contre la bande de Gaza, ont bloqué vendredi 3 novembre le départ d'un navire de ravitaillement militaire destiné à livrer des armes aux territoires occupés. Plusieurs manifestants ont grimpé sur une échelle située sur le côté du navire fixée à une écoutille de chargement. Le Centre arabe de ressources et d'organisation, AROC, a organisé la manifestation. La communauté a appris, grâce aux membres courageux de l'équipage, que le navire se dirigeait vers Israël pour transporter des marchandises militaires vers cette entité, a déclaré Lara Kisvani, directrice exécutive du groupe. L'objectif est d'amener les travailleurs des navires à se solidariser avec le mouvement anti-armes, a-t-elle indiqué. Les États-Unis, le plus grand et le plus ancien allié d'Israël, ont fourni au régime sioniste des milliers d'armes depuis le 7 octobre. Et pour fermer le journal, l'Honduras a rappelé son ambassadeur des territoires occupés pour des consultations autour de la guerre extrêmement meurtrière et dévastatrice menée par le régime sioniste contre la bande de Gaza. Le ministère hondurien des Affaires étrangères a annoncé cette nouvelle vendredi dans un message sur X citant les violations par Tel Aviv du droit international humanitaire à Gaza. Jusqu'à présent, le Chili et la Colombie ont également rappelé leurs envoyés des territoires occupés, tandis que la Bolivie a rompu ses relations diplomatiques avec l'entité occupante. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. le génocide israélien à Gaza en 2023 a ses racines dans la déclaration Balfour de 1917. Mohammad, Jad et Layan ont été tués avec leur petite sœur, Zayn, leur mère, Lubna, et leur père, Samer, lors d'une frappe aérienne israélienne dans la bande au Gaza assiégée en début de semaine. Ils n'avaient pas encore fêté leur 10e anniversaire. Comme les enfants d'autres régions du monde, ces enfants étaient pleins de vie, excités par l'arrivée de leur petite sœur, qui était devenue l'idole de la famille. Depuis le 7 octobre, plus de 8 800 Palestiniens, dont 40% d'enfants, comme Mohammad, Jad, Layan et Zayn, ont été tués dans cette enclave palestinienne, souvent décrite comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Cependant, le sort des Palestiniens ne se résume pas à ces 4 semaines. Il est ancré dans l'histoire, dans l'usurpation de leurs terres, la destruction de leurs maisons, le déni de leurs droits et le nettoyage ethnique. En 1917, Arthur Balfour, alors ministre britannique des Affaires étrangères, a écrit à Lionel Walter Rothschild, figure de proue de la communauté sioniste britannique, au sujet de l'établissement d'une terre juive en Palestine. Le contenu de la lettre, écrite le 2 novembre 1917, est devenu la Déclaration de Balfour. La déclaration a été rédigée pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, et constituée une partie importante du mandat britannique après la chute de l'Empire ottoman. Cette lettre a scellé le destin des Palestiniens et ouvert un chapitre marqué par l'occupation et l'apartheid. Aouni Abdaladi, personnalité politique palestinienne de renom, écrit dans ses mémoires que la déclaration a été faite par un Britannique qui n'avait aucun droit sur la Palestine. Après la Première Guerre mondiale, en vertu d'un système controversé, les pays vaincus ont dû céder les territoires qu'ils contrôlaient aux États victorieux. On pense que ce système devait permettre aux États victorieux d'administrer les nouveaux pays jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Cependant, le système des mandats n'a pas été suivi dans le cas de la Palestine. Mais une décision très étrange et profondément controversée a été prise concernant le territoire palestinien. La déclaration de Balfour est apparue comme un engagement public à établir un État pour les Juifs en Palestine. Les premières versions de la déclaration controversée ont même utilisé l'expression « la reconstitution de la Palestine en tant qu'État juif », indiquant clairement le plan de l'État britannique visant à l'épuration ethnique des Palestiniens. Le plan a été mis en œuvre et la Grande-Bretagne a commencé à faciliter l'immigration juive en Palestine. Entre 1922 et 1935, la population juive a augmenté de 27% contre 9% seulement avant 1922. À la fin de l'année 1939, la Grande-Bretagne et les groupes sionistes alliés ont lancé une campagne de grande envergure pour écraser les Palestiniens. Des villages ont été détruits, des couvre-feux imposés et des milliers de personnes tuées, blessées et arrêtées pour ouvrir la voie à la création de l'entité sioniste. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mandat britannique en Palestine expirait. Ils sont partis et les groupes sionistes se sont lancés dans une expédition violente pour étendre l'entité occupante illégitime. Ce massacre à grande échelle des Palestiniens et leur exode massif ont conduit à la Nakba ou à la catastrophe. Ce système d'apartheid a conduit à la première intifada en décembre 1987. Durant la première intifada, le mouvement de résistance palestinien Hamas, basé à Gaza, a vu le jour. La deuxième intifada a eu lieu en septembre 2000, lorsque Ariel Sharon, qui devint plus tard Premier ministre, fit une visite provocante à la Sainte Mosquée Al-Aqsa. La prise du pouvoir par le Hamas à Gaza et l'éviction du régime sioniste du territoire côtier ont conduit à un blocus humanitaire paralysant qui n'a fait que s'intensifier au fil des années. Depuis près de 2 décennies, plus de 2 millions de personnes vivent sous le choc du blocus. Durant cette période, le régime africain a attaqué la bande au Gaza. En 2008, 2012, 2014, 2021 et maintenant en 2023, des milliers de Palestiniens ont été tués par le régime occupant. Ce qui a commencé avec la déclaration de Balfour il y a 106 ans se poursuit aujourd'hui. L'extermination des Palestiniens, pour la plupart d'entre eux, comme Mohammad, Jad, Layan et Zayd.